Les crises que nous traversons appellent une transformation radicale. Le Club 44 prend le pouls de ces métamorphoses. Sa programmation vous invite à réfléchir à l'état du monde et à explorer d'autres perspectives et d'autres modèles. En lien avec les conférences, le Club vous propose une série d'entretiens avec de prestigieux invités. Zone 44, un podcast du Club 44. Épisode 9, entre action et méditation, notre besoin d'intériorité avec Felwine Sarr, philosophe, économiste et écrivain. La quête spirituelle du poète nourrit l'engagement intellectuel de Felwine Sarr. Avec passion et intelligence, il déploie sa pensée dans de multiples univers. Philosophe, économiste, écrivain, musicien, ce grand penseur sénégalais conjugue ses talents pour arpenter le monde et transmettre des savoirs. Il nous invite à réfléchir à des manières plus cosmopolites d'habiter le monde. Il plaide pour une économie du vivant, capable de répondre aux défis de notre époque. C'est une voix qui compte en Afrique, et il veut contribuer à une utopie active pour construire une Afrique fière de son histoire et de sa souveraineté, fière de choisir son destin. Felwine Sarr converse avec la journaliste Manuela Salvi.
Bonjour Felwine Sarr.
Bonjour.
On pourrait commencer en musique ou en poésie, en lisant un chapitre d'un roman ou d'un texte littéraire, ou alors en dissertant sur l'économie du vivant, ou encore sur les philosophies africaines. Vous êtes curieux du monde, curieux des autres, passionnément curieux, c'est la devise d'ailleurs du Club 44. Commençons par la passion, est-ce qu'elle vous anime ?
Oui, vraiment, depuis que je suis, je pense, enfant et adolescent, je me suis découvert une passion pour la littérature, pour la musique, pour les arts martiaux, pour le voyage et la découverte. Et j'essaie quoi, de leur rester, je dirais, ferme, fidèle par beau jour et par jour de pluie. Et elles m'ont énormément nourri, apporté, enrichi. Et voilà.
Grande passion, parcours incroyable. Économiste, vous avez étudié en France, vous enseignez aux États-Unis, aujourd'hui la philosophie africaine, vous enseignez. Essayiste, philosophe, vous publiez Afrotopie en 2016 ou encore La saveur des derniers maîtres, où on vous retrouve en infatigable voyageur. Hein. Vous l'avez dit que vous aimez voyager. Poète, musicien, vous étiez sur scène le 31 mai à l'ABC à La Chaux-de-Fonds. Écrivain, vous embrassez aussi la fiction avec un roman en 2022, Les lieux où habitent mes rêves, aux éditions Gallimard. Et l'arpenteur. Votre plus grand rêve, c'est quoi, Felwine Sarr ?
Probablement, c'est d'être dans un espace qui est un espace de création et de transmission. Et je pense que la musique, la littérature, l'enseignement sont des espaces de transmission. Mais je pense que les espaces que je chéris le plus, c'est là où on enseigne sa recherche ou bien on transmet ce qu'on a pu faire naître sous ses doigts à la faveur de son expérience de vie et de son regard sur le monde, quoi. Donc je pense que la littérature et la musique sont dans des espaces très importants.
Donc la musique, c'est aussi un lieu où habite votre passion.
Oui, absolument. J'ai commencé à faire de la musique adolescent, jeune. Et quand j'étais étudiant en France, j'étais dans un groupe de reggae où on a joué ensemble durant 13 ans. On a fait des tournées, des concerts, des albums. Et je n'ai jamais vraiment arrêté, quoi. Lorsque je suis rentré au Sénégal, l'université a pris beaucoup de place. Mais progressivement, j'ai ramené la musique et j'ai repris le chemin de la scène, des concerts, remonter en groupe, etc., etc.
Donc la passion, c'est le fil rouge, parce que c'est un peu le grand écart entre monter sur scène et enseigner l'économie ou la philosophie africaine aux États-Unis.
Oui, mais en fait, si on observe toutes ces activités, on peut voir un fil qui les relie. C'est le rapport aux autres, c'est la rencontre, et c'est mettre entre vous et les autres quelque chose qui relève de l'ordre de la transmission, quoi, un savoir.
Le partage.
Un partage, un savoir, un texte littéraire, des émotions musicales.
Alors l'écriture, c'est aussi votre pays. Quelles sont les portes que la poésie et le roman, que la fiction peuvent ouvrir ?
Déjà, c'est un lieu où on habite. Les mondes des livres sont des mondes réels. C'est des mondes imaginaires, c'est des mondes réels. On peut y habiter. On peut être...
Ça veut dire qu'ils ont une influence.
Oui, oui, c'est des mondes réels. Ils font partie de la réalité. On peut habiter ces mondes-là comme on habite la Suisse ou le Sénégal. C'est des mondes réels. On peut entrer en dialogue avec des individus différents, de différentes époques, de différents âges, de différents lieux, dans un dialogue qui est continu. Ces individus peuvent devenir nos compagnons de manière quotidienne, peut-être même...
Nous transformer.
Et nous transformer, puisqu'on procède d'eux. Quand on observe sa bibliothèque, on se rend compte que tiens, on est peut-être beaucoup plus en dialogue même avec des morts qu'avec des vivants. Et ces individus, donc, nous transmettent l'espace le plus dense de leur expérience. Et on se l'incorpore et ça devient de la vie en nous. Et je pense qu'il y a une manière de s'épaissir, de s'incorporer une masse d'expériences humaines, une masse de regards que l'on acquiert à travers la fréquentation donc d'auteurs, en lisant de la littérature, de la poésie. La poésie offre des clés pour lire le monde, pour en lire ce qui est indicible.
Est-ce qu'elle ouvre les portes du sens, Felwinsar?
Elle ouvre les portes du sens, elle permet de saisir une totalité de manière intuitive et au-delà du langage. Elle indique quelque chose qui relève de la réalité, mais qui échappe à la capture du langage.
Donc il y a un mystère dans la poésie?
Il y a une opacité des fois. Des fois, on est en face d'un certain nombre de vers, on ne comprend pas au sens rationnel, on ne saisit pas la métaphore entièrement, mais on reçoit l'émotion.
Et c'est ça qui est important, recevoir l'émotion. Dans votre bibliothèque, on trouve certainement du René Char, du Pascal Quignard. Absolument. Qui d'autre?
Jalal Uddin Rumi, un grand mystique musulman, qui est le fondateur de l'ordre des derviches tourneurs en Turquie. Au IIIe siècle, on trouve Aimé Césaire, on trouve Senghor, on trouve Hermann Hesse, on trouve Milan Kundera, on trouve Julien Gracq, on trouve Léonore Amiano, dont j'aime énormément l'œuvre. On trouve des Japonais, Hamakawa Wabata, Mishima, etc. etc. quoi.
Autant d'auteurs qui vous nourrissent, un lieu donc, la fiction que l'écriture, mais il y a aussi celui de votre naissance, Felwinsar, il est essentiel pour comprendre aussi votre parcours de vie. C'est Niodor au Sénégal, entre le fleuve et l'océan. Comment ce lieu a-t-il marqué votre imaginaire?
J'y suis né, j'y ai vécu mes premières années avant d'aller en France avec mon père à Strasbourg et à Versailles.
Votre père était colonel dans l'armée. Hein.
Ouais. Et donc, il a fait son école d'officier en France et ils nous ont emmenés, ma mère et moi. Ma petite sœur est née à Strasbourg et on est revenu après 4-5 ans. Et puis, on a été sur l'île tout le temps, quoi. Tous les étés, on les a passés sur l'île pratiquement. Donc, je pense que c'est un lieu physique qui m'a vu naître et que j'ai transformé aussi en espace imaginaire, quoi. Ce que je l'emporte avec moi. C'est un lieu que la nature a adopté, c'est un lieu très beau. Donc, il y a des bolons, il y a des chenaux. Il y a le fleuve Saloum qui entre dans un riz à salé, il y a l'océan Atlantique. C'est un lieu avec une belle végétation, un peu hors du temps.
Il vous manque parfois quand vous êtes aux États-Unis ou ailleurs?
Non, je ne dirais pas ça. Je dirais que le rapport est tellement organique que j'ai l'impression que je le transporte, quoi, et que je transporte une première durée avec moi. Donc du coup, c'est un lieu fondamental, mais je n'ai pas un rapport de nostalgie avec ce lieu.
Leur parcours incroyable, pour y arriver à ce parcours, à cette addition d'activités, on imagine des transformations, des bifurcations, des accélérations. Vous aviez, Felwinsar, un projet, des envies, de quel désir êtes-vous pétri?
Je pense que j'avais une grosse curiosité du monde. Et quand j'étais en terminale, j'avais plusieurs options. J'étais intéressé par la carrière militaire. J'avais même fait des concours des écoles d'officiers dans le monde. J'en avais réussi certains. J'étais aussi intéressé par la carrière scientifique, académique, les sciences dures, la médecine, la physique, être ingénieur, ça m'a trotté un peu dans l'esprit. Mais j'étais aussi intéressé par la philosophie, les humanités, la littérature et comprendre le monde. Et j'ai hésité. Finalement, j'ai choisi l'université. Parce que j'avais le sentiment que ça me donnait une liberté, que ça allait nourrir ma curiosité. Et très tôt, j'ai compris aussi que si je voulais être maître de mon temps le plus que je pouvais. La vie d'universitaire, bah, une fois les obligations universitaires remplies, laisser du temps à la curiosité, à la lecture et aussi à l'écriture et à la création. Et donc j'ai choisi très tôt de faire une thèse et de continuer, quoi.
Alors vous publiez en 2009 Daïch et vous en avez dit de ce livre que c'était un djihad, une guerre intérieure qui vous a mené où?
Bah, je pense qu'il y a un désir de naître complètement.
À vous-même.
À vous-même. Il y a cette idée de sentir obscurément des potentialités d'être, qui on peut devenir, qui on aimerait être, vers quel chemin on aimerait aller. Puis il y a les déterminations sociales, il y a les contraintes, il y a les assignations, il y a l'éducation familiale, il y a les maîtres du bavardage qui vous indiquent des sentiers.
Les maîtres du bavardage, c'est joli ça.
Et donc du coup, il y a tout un travail à faire pour ne pas les écouter, pour écouter ses voix intérieures, pour aussi écouter ce qu'il y a de lumineux dans l'héritage des vivants. Il ne faut pas être vaniteux.
On n'est pas seul au monde.
On n'est pas seul au monde et certains ont creusé, ont vu des choses importantes, ont compris, tu vois, et ils peuvent transmettre. Donc il y a cette équilibre à trouver. Mais il y avait un désir de naître pleinement à ses potentialités, quoi, à ce que l'on sentait enfui en soi, et un désir de grandir, de devenir soi, et de voilà.
2009, on est en 2023, vous avez l'impression, le sentiment que vous y êtes parvenu à naître pleinement à vous-même?
Oui, vraiment, vraiment. C'est-à-dire que j'aurais pu avoir des soucis de santé qui m'empêchent de poursuivre des rêves ou des élans. Il y a plein de choses qui entravent. Ce n'est pas juste que lorsqu'on veut, on peut. Non, ce n'est pas vrai. Et je trouve que l'univers, le cosmos, les ancêtres ont quand même assez veillé sur moi pour que je puisse aller à la poursuite d'un certain nombre d'élans. Et ça, je suis reconnaissant de cette chose qui m'a été offerte. Et je ne suis pas dupe de ma part et d'une part qui n'est pas la mienne. Il y a une part qui n'est pas la mienne. Ce n'est pas juste tout mon effort, mon travail. Bien sûr, ça joue un rôle, mais ce n'est pas que ça.
Ça veut dire que vous pensez que nous avons un destin?
Je crois qu'on a quelque chose qui nous est destiné. Je crois qu'on est à la croisée d'un libre arbitre de choix que l'on fait. Mais je crois qu'il y a des forces qui sont plus grandes que nous qui œuvrent. Et que peut-être la vérité est dans la conjonction de ces deux chemins.
Mais vous parlez de voix intérieure, Félouin Star, vous êtes aussi un homme d'action, mais de voix intérieure, de transmission de savoir, de philosophie. Comment garder, et comment vous le faites-vous, comment garder le cœur ouvert à ce que nous dit l'univers, au signe de l'univers, puisqu'on a un destin, selon vous?
À mon avis, il faut une pratique d'intériorité, d'écoute. On peut l'appeler pratique spirituelle. Certains vont faire de la méditation, d'autres vont prier, d'autres vont aller dans un dojo, d'autres vont aller en marche dans la forêt. Des moments de silence et des moments d'écoute profonde, des voix intérieures, de la part lumineuse de la conscience humaine. Et je pense que cette intériorité-là, elle nous aide à nous construire en tant qu'individu, à trouver des équilibres intérieurs, mais que ça ne suffit pas. Je pense qu'il faut la rétroprojeter à l'extérieur et construire des rames de solidarité.
Mais c'est ça la clé, l'équilibre, parce que vous êtes un homme de contemplation. Hein. Vous dites parfois que vous auriez pu être un moine bouddhiste, la spiritualité occupe une grande place, mais vous êtes aussi un homme d'action. La clé, c'est l'équilibre.
Oui, et il m'est arrivé d'être tiraillé entre ces deux vocations-là, tu vois, en étant au cœur de l'action et en désirant juste être dans un cloître ou aller au Japon, au bord du mont Fuji, ou à Kyoto dans un temple zen, ou dans une mosquée soufie à Fès. Et en même temps, je pense que comme un pendule, quoi, j'ai vacillé entre les deux. Et puis en ayant aussi fortement le sentiment que, bah, qu'il fallait s'engager auprès du monde, auprès des humains, dans sa communauté, et tenter humblement, mais avec résolution, de contribuer à ce qui se fait, quoi, de contribuer au monde des humains, tu vois.
En ce sens-là, vous êtes un homme d'action, mais aussi de réflexion, vu que vous êtes un intellectuel.
Oui, et je pense que, justement, quoi, l'action doit être nourrie par la réflexion et la pensée, et vice-versa. Et l'action doit être réfléchie, et la pensée doit se nourrir d'une réalité empirique, et que je pense qu'il y a un aller-retour entre les deux, qui s'auto-entretiennent, quoi. Et je pense qu'il faut réfléchir avant d'agir, mais il faut pas aussi attendre trop longtemps, quoi, parce qu'un certain nombre de choses, on les apprend dans l'action. Même. C'est l'action qui nous enseigne.
Et parfois en se trompant.
Absolument, c'est ça l'idée. C'est que c'est l'action nous enseigne, elle nous édifie. Donc il y a un certain niveau de réflexion qu'il faut avoir avant d'engager quelque chose. Mais je pense qu'aussi, il faut engager les choses en n'attendant pas d'avoir tout élucidé.
Mais cette pratique de l'équilibre que vous décrivez, ça fait penser aux arts martiaux, hein, que vous pratiquez, vous l'avez dit, Félouin Star, à un haut niveau même, vous êtes ceinture noire, c'est juste un dojo à Dakar?
Ceinture noire, 5e dan.
Ah waouh!
J'ai un dojo à Dakar et je m'entraîne depuis que j'ai l'âge de 12 ans, donc j'ai 36 ans de pratique ininterrompue de karaté Shotokan.
Belle persévérance.
Oui, ça c'est une ligne claire dans ma vie, tu vois, c'est une sorte d'encre.
Donc on revient à l'idée d'intériorité, de parcours de voie intérieure, mais vous cultivez aussi, Félouin Star, l'humilité lorsque vous obtenez votre ceinture noire et que vous retournez au dojo. Qu'est-ce qui se passe?
Ben, je ne l'attache pas. Je la garde dans un coin et il a fallu que le maître Jean-Paul Ducrot, à qui je rends un hommage là où il est, il a fallu qu'ils me disent, bah, écoute, là, il faut que tu l'assumes, quoi, que tu le portes et que tu te mettes au premier rang, quoi, et que tu arrêtes de te planquer derrière. Il faut que tu assumes.
Et donc que tu enseignes.
Et que tu enseignes et que tu assumes la station là où tu es, quoi, et que tu l'occupes pleinement. Il y a de la modestie, mais il faut aussi occuper les espaces où on est les plus légitimes.
Et là, vous y êtes arrivé facilement?
Oui, je me suis mis au premier rang. Et puis, il m'a laissé le dojo les lundis et les mercredis que j'enseigne. Lui, il enseignait les vendredis. Et c'est de là que j'ai appris à enseigner au dojo. Et plus tard, j'ai créé mon propre dojo, quoi.
Mais le verbe assumer son chemin, assumer sa voix intérieure, comment ça résonne ?
Je pense que je suis l'aîné d'une famille africaine classique. Et l'aîné a des responsabilités qu'il doit assumer. Il y a un rôle d'exemple, il y a un rôle de support des parents. Et puis il y a un rôle de lieutenant, quoi. Et c'est le lieutenant, tu vois. Il tient les choses. Et je pense que dans ma famille et dans la famille de mon père, dans la transmission de mon père à ses fils, il y a l'idée d'assumer sa part, quoi. La charge qui vous incombe, de l'assumer pleinement, de ne pas se dérober et de faire sa part.
Donc d'être aussi, Fel Winsor, un homme de devoir.
Je pense que je le suis en toute humilité. Je le suis et des fois même peut-être un peu trop.
Vous aimeriez vous libérer un peu de cette idée de devoir ?
Je réfléchis. Des fois, j'essaie autant que faire se peut d'assumer ce que j'estime être mes devoirs. Maintenant, je ne me prends pas pour un démiurge. Je sais que le monde déborde, quoi, et que chacun a une part à faire. Mais à chaque fois, je me pose la question de savoir, est-ce que j'ai les droits, d'accord, mais est-ce que j'accomplis les devoirs qui sont les miens, y compris ce que la conscience vous dicte, quoi. Aujourd'hui, le Sénégal est dans une situation délicate, très délicate, et la conscience, elle me commande, quoi, de contribuer à préserver la démocratie, de dire la vérité, d'avoir un positionnement clair pour la justice et l'équité, etc., etc., quoi.
Donc vous vous sentez aussi une responsabilité d'intellectuel qui alimente le débat démocratique dans votre pays ?
Absolument, je l'ai fait. En janvier, j'ai écrit une tribune sur la situation du pays. Je le fais régulièrement. En 2012 aussi, je l'avais fait. L'année dernière aussi, lorsqu'on était dans une situation délicate, j'ai pris mes responsabilités. Et je pense que je dois contribuer de là où je suis, quoi. On m'a beaucoup donné et je dois redonner en retour.
Donc c'est ça aussi le chemin, ne pas nourrir seulement, et je vous l'ai entendu dire dans une autre interview, ne pas nourrir seulement son petit moi, mais être responsable et se sentir responsable aussi de sa communauté collectivement.
Absolument. Je pense que même, tu vois, on passe beaucoup d'années quand on est jeune à fortifier l'ego. Et puis je pense qu'une des sagesses, c'est qu'au bout d'un certain âge, il faut le défaire, il faut l'étendre, il faut l'éparpiller. Bien évidemment, on peut veiller à ses accomplissements, mais si ce n'est que ça, ça tourne en rond, comme ça tourne à vide. Je pense qu'à un moment donné, la question, c'est qu'est-ce qu'on apporte à la communauté. La communauté nous a édifiés, nous a nourris, nous a construits, nous a aidés. On a eu aussi la chance d'avoir échappé à des chocs trop violents, à des drames irrémédiables. À un moment donné, on se dit, ben, qu'est-ce que je redonne, quoi, et comment je contribue à ce que la communauté soit beaucoup plus forte.
Et ça veut dire aussi solidarité et fraternité. Cette fraternité, on la sent aussi dans votre roman publié en 2022, Les lieux où habitent mes rêves. On évoque là une transformation intérieure, une vie intérieure intense qui forge votre parcours. C'est une histoire de jumeaux qui vivent des épreuves qui les transforment. Les épreuves, et vous en avez certainement vécu, hein, forcément, elles sont de nature à nous transformer.
Oui, elles sont en principe transformatrices, elles peuvent aussi nous détruire. Il y a des gens qui n'ont pas survécu à des épreuves, mais je pense que si on s'en sort, notre espace s'agrandit, nos capacités s'agrandissent, et peut-être que nous en tirons aussi des leçons de vie, quoi. Donc je pense qu'il ne faut pas juste voir le versant éprouvant, il faut voir aussi la capacité que ça nous donne, il faut voir les chemins que ça nous fait faire, les progrès spirituels, éthique, les progrès de conscience, et peut-être même des progrès en humilité, en empathie, en humanité, quoi.
Et en élargissement de sa propre vie, parce qu'il y a quelque chose de plus grand que nous. Dans le roman, Fodé devient maître spirituel dans le pays Séréré, et Bouel part étudier en France. Mais Fodé, quand le maître, le grand initié, sent la mort approcher, lui dit « c'est à toi de prendre le flambeau », et Fodé lui répond « je ne suis pas prêt ». À quel moment vous avez-vous senti que vous n'étiez pas prêt ?
À beaucoup de moments, et ça c'est intéressant. Exemple, cet épisode de la ceinture noire que vous rappelez, c'est intéressant. J'avais réussi l'examen et pourtant je ne me sentais pas prêt en dépit de ça. Il a fallu que Jean-Paul me pousse au devant de la scène. Mais je pense que ce qui est intéressant, c'est que dans plusieurs configurations, on est déjà prêt sans le savoir. Et ce n'est que quand on n'a pas le choix et qu'on est poussé devant qu'on se rend compte qu'en fait qu'on était prêt.
Le miroir que nous tend les autres.
Le miroir que nous tend les autres. Et des fois, il faut que le maître disparaisse pour que l'on s'accomplisse. Il faut que le père disparaisse pour qu'on prenne sa place dans la fratrie, dans la famille. Il faut que la personne qui servait de repère et de poteau mi-temps s'en aille. Et pour qu'on se rende compte dans l'exercice qu'en fait, on était déjà prêt. Mais on ne le savait pas ou on ne le pensait pas, quoi. Et souvent, l'ultime leçon, elle ne s'accomplit que quand le maître disparaît.
Mais vos maîtres ont disparu. Vous êtes devenu un maître, Felwinsar, être d'action, être de pensée aussi. Vous avez fondé à Dakar les ateliers de la pensée avec un autre philosophe, Achille Mbembe. Vous l'avez dit, vous vous sentez responsable pour votre communauté, pour votre pays, pour votre continent. Vous avez des rêves, des projets pour ce continent qu'est l'Afrique, continent où les jeunes sont en grande majorité. Vous détaillez ces projets dans Afrotopia. C'est quoi l'utopie que vous avez pour l'Afrique ?
Bah que le continent choisisse, que les pays du continent, que les communautés choisissent leur destin, qu'elles configurent les métaphores de leur futur, c'est ce que je dis dans le livre, qu'elles décident pour elles-mêmes ce qu'est une vie bonne, qu'elles décident comment elles veulent articuler les ordres économiques.
C'est très philosophique ça, le buen vivir.
Absolument, le buen vivir, mais la vie bonne vraiment. Quoi. Donc les ordres philosophiques, économiques, culturels, éthiques, écologiques et politiques, qu'elles choisissent les combinaisons qui répondent à leur échelle de valeur et à leur longue histoire et à leur longue culture. Et surtout, le continent a de potentialités extraordinaires dans beaucoup de domaines, qu'elle puisse les accomplir, quoi, et les déployer. Et surtout, qu'elle offre l'espace d'une vie bonne et heureuse pour ses habitants.
Et ça, c'est réaliste ou c'est une utopie où le chemin sera très très long, Felwinsar ?
Non, en fait, l'utopie n'est pas un rêve abstrait, un rêve doux.
C'est un lieu où on peut habiter.
C'est un lieu qu'on habite, c'est un lieu d'action, c'est un lieu qui transforme le réel, c'est un lieu qui fissure la trame d'un réel qui semble inaltérable, c'est un lieu qui ouvre des possibles et c'est un lieu qui féconde, quoi. C'est pour ça que je l'appelle dans le texte une utopie active. Elle agit. Il faut d'abord configurer les lieux dans l'espace de l'imaginaire et de la pensée et puis travailler au jour le jour pour les faire advenir dans le temps présent. C'est des séquences qui s'articulent, quoi. L'utopie, c'est la recherche infinie, quoi, d'un état beaucoup plus juste, beaucoup plus équilibré, de l'état social, quoi, et qui sans cesse revient et qui ne renonce pas.
Plus équilibré et plus juste, mais il y a un déséquilibre évident entre l'Europe et l'Afrique, pour ne comparer que ces deux espaces géographiques là du monde. L'Europe qui a exporté son modèle, l'Afrique au psychisme blessé par la colonisation, par les traites négrières, un psychisme qu'il serait urgent de réparer pour rétablir l'équilibre.
Oui, c'est important. On a une séquence historique récente qui est celle de l'asservissement, de la non-liberté, et qui a laissé un impact. Notre histoire ne se résume pas à celle-ci, elle est longue, elle a été riche, mais la dernière séquence, le régime de sollicité qui précède les temps contemporains, ben, nous a valu un certain nombre de traumas qu'il faut que l'on résolve. Et donc, du coup, reconstruire les infrastructures psychiques, retrouver une pleine estime de soi.
Une pleine souveraineté aussi.
Ça, c'est important, c'est un travail. Il faut qu'on retrouve une souveraineté, je dirais, économique et politique et intellectuelle et épistémologique. Et ça, ce sont des chantiers qui sont aujourd'hui importants dans le contexte de l'Afrique qui est la nôtre.
Afrique, continent jeune, on l'a dit, Afrique, continent aussi de l'avenir, précisément parce qu'il est jeune et qu'il y a un élan vital qui va tous nous déborder.
Ça, c'est absolument vrai et je le crois. Mais je n'aimerais pas opposer l'avenir au présent. Je pense que l'avenir est important à construire et c'est maintenant qu'il faut le faire. Mais je n'aimerais pas aussi que le temps de l'Afrique soit toujours délocalisé dans l'avenir, comme si sa présence actuelle au monde n'était pas valable. Et j'ai envie de rappeler...
Mais pas légitime.
Pas légitime, que sa présence actuelle est valable, elle est légitime, elle est importante. Maintenant, oui, vu sa démographie, vu cette dynamique, tout porte à croire qu'elle est aussi le continent de l'avenir.
Mais l'Afrique n'est pas le continent qui pollue le plus, hein. C'est le continent de la démographie qui permet un renouvellement des générations, un continent jeune, continent de l'avenir, mais en puisant dans les savoirs ancestraux, parce que vous insistez beaucoup, Felwinsar, sur la transmission de ces savoirs-là, en s'appuyant sur ces savoirs, que peut nous dire l'Afrique ? Quelles leçons peut nous donner l'Afrique pour les défis qui sont les nôtres aujourd'hui ?
Elle en a plusieurs. Déjà, c'est important ce rapport à ce que j'appelle une écologie première. Je pense que en étant le continent qui pollue le moins, on a une position éthique de ce point de vue-là qui est importante. Je pense qu'un progrès, ce n'est pas juste créer des artefacts, c'est ne pas dévaster le monde. Et le geste non dévastateur, je trouve que c'est une leçon. Et on pourrait s'en inspirer.
Et surtout, les défis auxquels nous sommes confrontés concernent tous les habitants de la planète. Vous êtes économiste aussi. Vous plaidez pour une économie du vivant, c'est ça que l'Afrique peut nous apprendre, une économie du vivant.
Elle la met déjà en œuvre dans sa manière de ne pas surexploiter les ressources et dans le rapport intelligent qu'elle a avec la régénération des ressources. Mais l'économie du vivant nous dit, attention, il y a un geste économique qui est entropique, qui accélère l'entropie du vivant puisqu'il ne laisse pas aux biotopes le temps de se régénérer, de régénérer ses ressources, parce que la pression est trop forte. Et nous savons que cette économie, elle n'est pas soutenable. Alors, on a les moyens de penser des formes de production qui, en même temps qu'elles produisent des biens nécessaires, et non superflues régénèrent les ressources qu'elles utilisent et articulent nos relations de croissance mutuelle avec les différents ordres avec lesquels ils sont en dialogue, les ordres sociaux, les ordres naturels, les ordres techniques, les ordres politiques.
On appelle ça une cosmologie.
Oui, c'est une cosmologie et Isabelle Delannoy appelle ça une économie symbiotique parce que la symbiose, c'est une relation de croissance mutuelle. Une croissance qui fait décroître le reste du vivant n'est pas une croissance, c'est une malcroissance. Donc je pense qu'il y a un travail déjà à faire dans les catégories axiologiques de l'économie, bien définir les concepts, dire ce qui est juste et ce qui est vrai, bien nommer le réel, et puis arrêter de détacher l'ordre économique du reste, du vivant et du social.
Mais ça veut dire aussi, Felwinsa, retrouver le temps long, parce que ce que vous qualifiez de malcroissance et parfois même d'aveuglement, c'est le temps court, c'est le profit à court terme.
C'est le profit à court terme, c'est l'excès, c'est la démesure, c'est l'hubris, c'est le trop-plein, c'est le gaspillage, c'est les chaînes industrielles qui programment l'obsolescence des objets qui font que on pourrait se servir de certains objets sur une très longue durée. Mais il faut les renouveler, donc continuer à produire. C'est toute cette démesure-là. Et je pense que le Covid nous a montré ce qui était nécessaire et ce qui ne l'était pas. Dans l'économie, les métiers qui étaient les métiers qui nourrissaient la vie, qui étaient fondamentaux, ce qui était accessoire, etc., etc. Donc je pense qu'il y a vraiment une autocritique, une cure d'amaigrissement qu'il faut faire et un retour à un geste beaucoup plus raisonnable.
Et plus écologique.
Et plus écologique.
Les ruptures sont nécessaires. Lesquelles, selon vous ? Sont nécessaires de ruptures assez radicales.
Notre rapport à la question écologique et à notre imaginaire de la civilisation, la manière dont nous concevons les modes de vie, ça c'est un espace de rupture fondamentale. C'est quoi une vie bonne? C'est quoi une vie saine? Qu'est-ce qui est nécessaire? Qu'est-ce qui ne l'est pas? C'est quoi des modes de consommation qui sont raisonnables?
Et durables.
Et durables. Et qu'est-ce qui est important en fait? D'où vient la joie? D'où vient la paix? Est-ce que le plus est le mieux? Etc. Etc. Je veux dire, il y a vraiment une rupture civilisationnel que l'on doit faire, puisque ça ne tiendra pas, quoi.
Et là, on va dans le mur, tout le monde le dit.
Tout le monde le dit, les rapports du GIEC le disent, les travaux des scientifiques le disent, et pourtant, la grande énigme, ça ne semble pas entraîner une révolution radicale.
Mais est-ce qu'il faudrait aussi une rupture dans notre attention au vivant, c'est-à-dire en tout cas, à défaut d'une rupture, un changement dans notre attention au vivant et à tous les vivants?
Non, je pense que même le changement, il est beaucoup plus profond que ça, il n'est même pas tant dans l'attention au vivant, il est dans la conception que nous avons de notre place dans le vivant. Nous oublions que nous sommes le vivant, que nous faisons partie du vivant, que nous ne sommes pas séparés. Et que le vivant, c'est un nœud d'interrelation qui nous fait vivre. Et des fois, même quand on veut protéger le vivant, on a un rapport d'extériorité. Il y a le vivant et nous. Non, nous sommes au cœur du vivant.
Et nous ne sommes pas au haut de l'échelle de l'évolution.
Au haut de l'échelle de l'évolution, nous sommes dans la chaîne. Nous sommes un des compagnons de la grande odyssée de toutes les espèces du vivant, quoi. Et c'est ça que nous devons retrouver. Nous sommes sur un piédestal que nous avons érigé et nous avons érigé notre rapport au monde dans une forme de centralité et de surplomb. Et je pense que là, il y a un travail à faire dans la manière dont nous concevons qui nous sommes et quelles sont nos interrelations avec ce foyer qui est notre foyer écologique. Et nous ne sommes que l'un des éléments de ce foyer-là, quoi. Et nous devons avoir un rapport beaucoup plus intelligent, mais surtout retrouver une place juste.
Et ça, c'est le grand chemin de l'humanité aujourd'hui. Vous avez, Felwinsa, une utopie, des utopies pour le continent africain. Mais quelle utopie serait-il urgent de dessiner pour l'humanité tout entière?
Fondamentalement, c'est préserver la vie, c'est préserver les conditions du biotope. En fait, il y a un désir de déconditionner la condition humaine. On va aller sur Mars, on va la terraformer, on va épuiser les ressources en pensant que l'artificiel répondra. C'est pas vrai. On a besoin, on est ombilicalement lié à la Terre. On est ombilicalement lié à notre biotope. On ne peut pas, on n'a pas les ressources de vivre en dehors du biotope. Et on est dans une forme d'imaginaire faux et problématique qui croit que la puissance scientifique et technique nous permettra de substituer le monde naturel par un monde artificiel.
Mais quel grand récit faudrait-il imaginer pour que nos consciences se troublent d'abord et qu'elles changent?
Il faut les construire. L'écologie est un récit tourné vers le futur. Le transhumanisme est aussi un autre récit.
Qui est plus technologique.
Oui, il propose une eschatologie technologique. Non, je suis contre le transhumanisme. En fait, je dis que c'est un récit tourné vers l'avenir. Donc, je dis qu'il y a déjà des propositions. Il y a la collapsologie qui est un récit. Il y a le transhumanisme qui est un récit. Il y a les récits de l'écologie qui sont des récits. Et je pense qu'il faut aller dans le sens de produire des récits qui appréhendent l'avenir de manière sereine, sage et intelligente et non délirante, quoi.
Mais vous êtes écrivain aussi, Felwinsa. Est-ce que la littérature, est-ce que la fiction, elle est de nature à colonisé nos imaginaires, même si le terme colonisé n'est pas tout à fait juste. Hein. Je m'adresse à un Africain qui a subi la colonisation, mais elle serait mieux à même de fermenter, de faire germer
elle
notre imaginaire.
Elle les nourrit, elle les occupe, elle les nourrit. Et je pense que la fiction est très importante. Et généralement, d'ailleurs, un certain nombre de choses qui arrivent dans la fiction arrivent dans le réel après, puisqu'ils ont été accueillis dans l'espace fictionnel. Et je pense que si on veut réinventer des mondes, on peut déjà les imaginer dans l'espace du roman, déjà avant de les imaginer dans des espaces beaucoup plus science exacte. Mais on peut déjà les rêver, on peut déjà les configurer, quoi. On peut déjà les penser, on peut déjà leur donner une réalité dans l'espace du texte fictionnel et de la substance. Et c'est important, quoi, parce que je veux dire, nous sommes aussi mus par nos imaginaires.
Donc vous allez continuer à écrire des romans ?
Oui, je continue. La littérature est très importante chez moi, peut-être même plus que les essais, contrairement à ce qu'on pourrait croire.
C'est ça qui a fait votre succès ?
Oui.
Les essais, notamment Afrotopia, qui était un best-seller mondial.
C'est ça qui fait mon succès, mais c'est ça un peu ce qui est drôle, c'est que ce que les autres vont retenir, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus important pour vous.
C'est la littérature qui est la plus importante, parce que la fiction peut construire un nouveau grand récit tourné vers un avenir plus juste, c'est ça ?
Oui, je le crois aussi. Je crois aussi que le monde se réinvente dans les espaces imaginaires.
Dans l'espace artistique. Merci infiniment d'avoir partagé quelques instants avec toutes celles et tous ceux qui vont écouter le podcast du Club 44. Merci, Felwinsar.
Un grand merci.
Le 1er juin 2023, Felwinsar a donné une conférence au Club 44 intitulée « Faire monde, rencontre autour de politique relationnelle et d'économie à venir ». Vous pouvez réécouter cette conférence en libre accès sur notre site internet club-44.ch, rubrique médiathèque.